La Bible utilise beaucoup d'images pour décrire la nature de l'Église. La Bible appelle l'Église un corps, le corps du Christ. La Bible appelle l'Église l'épouse de Jésus. La Bible appelle l'Église le troupeau de Dieu, comme un troupeau de moutons. Et la Bible appelle l'Église l'armée de Dieu. Mais la description de l'Église que je préfère de la Bible, c'est lorsque la Bible appelle l'Église une famille. Nous sommes la famille de Dieu. Dans Éphésiens 2:19, il est écrit « Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens avec tous les saints, et vous appartenez à la famille de Dieu avec les autres chrétiens. » La Bible dit que nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est un élément essentiel de la nature du chrétien. Un autre verset, Romains 12:5, nous dit « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Vous avez entendu? Nous sommes tous unis les uns aux autres. Et c'est vers ce niveau d'engagement que nous dirigeons les gens après qu'ils soient devenus chrétiens. Tout d'abord, on devient chrétien en confiant sa vie à Jésus-Christ. Mais ensuite, on devient membre de la famille d'une église en s'unissant à d'autres croyants. Et c'est votre prochain pas dans votre maturité spirituelle. Et en tant que responsable chrétien et responsable d'église, nous devons dire aux gens que cela ne suffit pas de se soumettre à Christ, mais ils doivent aussi se soumettre à sa famille, à son corps, à l'église de Dieu. Comment s'y prend-on? Comment faire passer les gens de la catégorie de simples spectateurs dans l'église à des membres actifs de l'église, des membres qui vont être unis aux autres croyants? Comment aider les gens pour qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas seulement être soumis à Christ, mais ils doivent être aussi soumis à sa famille et aux autres chrétiens dans le corps du Christ? J'aimerais vous donner quelques suggestions aujourd'hui pour accomplir justement cela. Tout d'abord, vous devez commencer par le responsable. Et je vous suggère de créer une atmosphère où les gens vont vouloir faire partie de la famille de votre Église. Comment créer cette atmosphère? Quelle est l'atmosphère idéale pour que les gens se disent « Je ne veux pas seulement être spectateur dans cette Église, mais je veux être membre et faire partie de la famille de Dieu. » Il y a deux choses que les gens désirent le plus dans leur vie. Ils veulent être aimés et ils veulent être acceptés. Ce sont deux besoins fondamentaux chez tous les êtres humains. Nous avons besoin d'amour et d'acceptation. Et ce n'est pas surprenant, puisque la Bible dit que l'Église doit offrir ces deux choses aux gens. Dans Jean 13:35, Jésus dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La caractéristique d'un chrétien, c'est d'aimer non seulement Dieu, mais avoir de l'amour les uns pour les autres. Nous devons être soumis les uns aux autres, tout comme nous sommes soumis au Christ. C'est la nature même de la communion fraternelle. Et la communion fraternelle est l'un des 5 objectifs de l'Église. La Bible dit aussi dans Romains 15:7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et tout comme Christ nous a offert sa grâce et nous a acceptés de manière inconditionnelle dans sa famille, nous aussi nous devons accepter les autres de manière inconditionnelle dans la famille de Dieu et nous devons aimer nos frères et sœurs en Christ. La Bible dit que si j'aime Dieu, mais je hais mon frère, je suis un menteur et la vérité n'est pas en moi. » Donc nous devons créer une atmosphère où l'amour et l'acceptation règnent. Les églises qui grandissent aiment, et les églises qui aiment grandissent. Et si vous voulez que votre église soit en bonne santé spirituelle et grandisse, alors vous devez agir comme une famille, et non pas comme une entreprise, non pas comme un club, non pas comme une organisation ou une institution, mais l'église, c'est une famille. Bon, je voudrais m'adresser à ceux d'entre vous qui sont pasteurs, aux anciens et aux responsables d'église pendant quelque temps. Je voudrais vous donner des exemples précis pour vous aider à créer cette atmosphère de famille dans votre église. D'abord, vous devez montrer que vous vous intéressez aux gens. Montrez-le. Exprimez votre amour pour les gens. Il n'est pas surprenant de voir que dans les églises qui ne grandissent pas, les pasteurs ou les responsables de l'église sont froids envers les visiteurs et aussi envers les membres de leur église. Si vous voulez connaître la chaleur de votre église, mettez le thermomètre dans votre propre bouche. Vérifiez vous-même quelle est votre température personnelle. Beaucoup de responsables d'église, par leur action et par la façon dont ils traitent les gens, découragent ces derniers à faire partie de l'église parce qu'ils ne sont pas chaleureux. Soyez abordable et soyez vous-même, faites-vous connaître en tant que responsable d'église. Une autre chose à faire pour réchauffer l'atmosphère de votre Église, c'est de mémoriser les noms. Apprenez les noms des membres de votre Église et saluez-les par leur nom. Rien ne les satisfait plus que de voir que vous connaissez leur nom, surtout lorsqu'ils commencent juste à venir à l'Église et que vous les connaissez. Je pense qu'il faut prendre l'habitude de saluer les gens personnellement avant et après chaque service, pour qu'ils puissent voir votre amour, voir que leur vie vous intéresse et que vous voulez être proche d'eux. Et ensuite, toucher les gens par des gestes chrétiens. Vous savez, la Bible dit de se saluer les uns les autres d'un baiser fraternel. Et dans beaucoup de cultures, ça ne se fait plus, mais je sais qu'il y a de la puissance en touchant les gens, comme par exemple une poignée de main ou une embrassade. Quelquefois, lorsque j'exprime mon amour ou mon amitié à quelqu'un dans notre église, à un membre, je ne sais pas si cette personne a eu une semaine difficile ou pas, avec beaucoup de problèmes. Je me demande souvent si cette personne a reçu une expression d'amour au cours des derniers jours. Des gens de l'église me disent, vous savez, monsieur le pasteur, la seule preuve d'affection physique que je reçois, les embrassades, des paroles encourageantes, ce sont les paroles et les expressions d'amour que je reçois à l'église le dimanche. En tant que responsable, vous donnez le ton, et si vous créez une atmosphère de communion fraternelle, alors vous allez voir que les autres vont y le faire. La deuxième chose que vous devez faire pour que les gens désirent faire partie de la famille de votre Église, c'est d'en communiquer la valeur. Communiquer la valeur de faire partie de la famille de Dieu. Vous voyez, tel que je l'ai dit, la différence entre venir à l'Église en spectateur et devenir membre de l'Assemblée des fidèles de l'Église, c'est la différence qui existe entre un engagement et un non-engagement. Plus vous êtes engagé à faire partie de la famille de Dieu, plus vous allez grandir dans votre maturité spirituelle. La Bible dit que Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Et plus vous grandissez dans votre foi, plus vous allez aimer l'Église et plus vous allez vous engager. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui dit « Oh, je suis chrétien, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'Église », vous pouvez être sûr qu'il n'est pas spirituellement adulte. Jésus pensait que l'Église était si importante qu'il est mort pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Et si nous aussi nous comprenons que l'Église est importante, nous allons aussi nous engager. Lorsque vous enseignez la vraie valeur de faire partie de la famille de l'Église, vous devez expliquer que le mot « Église » est utilisé de deux manières différentes dans le Nouveau Testament. D'abord, il est utilisé au sens universel, l'Église de Dieu qui se rapporte à tous les croyants qui ont existé au travers de l'histoire, sur chaque continent, dans chaque pays et en tous les temps. C'est ça l'Église universelle, ou comme quelqu'un l'a appelé l'Église invisible. Ce mot est utilisé ainsi seulement deux ou trois fois dans tout le Nouveau Testament. La plupart du temps, lorsque vous lisez le mot « Église » dans le Nouveau Testament, ce que cela signifie, c'est une famille de croyants. L'Église qui se rassemble dans cette maison, l'Église qui se réunit dans cette ville, l'Église de Philippe, l'Église de Corinthe, l'Église qui se réunit dans la maison de Dorcas et dans d'autres endroits. Ce mot se réfère à une Église bien spécifique. Et tous, nous avons besoin de trouver une famille. Une fois que vous faites partie de l'Église universelle parmi les chrétiens, vous devez trouver une famille dans une Église locale. En fait, il y a trois parties dans la vie chrétienne. Et pour être conforme au plan de Dieu, vous devez vous engager envers ces trois parties de la vie chrétienne. La première partie, c'est de croire. La Bible dit dans Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Bien sûr, vous savez déjà cela, que croire vous permet de faire partie de la famille de Dieu. Mais la foi ne suffit pas. La Bible dit aussi que dans la vie chrétienne, nous devons appartenir à une famille. La Bible dit que nous appartenons à la famille de Dieu avec les autres chrétiens. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous passiez votre vie en solo. Dieu désire que vous receviez l'aide d'autres personnes dans la famille de Dieu. C'est ce qui s'appelle la communion fraternelle, le soutien pour vous aider dans votre vie chrétienne. La troisième partie de la vie chrétienne, c'est d'être transformé, et cela va durer toute votre vie. Vous devenez ce que Dieu désire que vous deveniez. La Bible dit dès le départ que ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé de les rendre semblables à son Fils. Dans Romains 8, 29, Dieu désire que nous grandissions et que nous devenions conformes à son plan pour notre vie. Maintenant, quels sont les avantages de faire partie d'une famille dans une église locale? Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, cela m'identifie à un vrai chrétien. Lorsque je m'identifie aux autres chrétiens, Cela veut dire « je n'ai pas honte de dire que je suis chrétien, je suis fier de m'identifier et de faire partie de la famille de Dieu ». Deuxièmement, cela me permet d'avoir une famille spirituelle pour me soutenir et m'encourager. Et nous avons tous besoin d'être soutenus. La Bible dit que nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Nous devons nous encourager les uns les autres. La Bible dit « ne cessons pas d'assister à nous assembler, mais rassemblons-nous et ne délaissons pas nos réunions ». Parce que dans la vie chrétienne, nous avons besoin de cela. Troisièmement, la famille d'une église me donne la possibilité de découvrir et de développer mes dons personnels et mon ministère. C'est un endroit où vous pouvez utiliser votre don d'enseigner, votre don de servir, votre don d'hospitalité, le don de générosité et le don d'avoir des responsabilités. Tous ces dons se développent dans la famille de l'Église. Et quatrièmement, lorsque je fais partie de la famille de l'Église, je me place sous la protection spirituelle des responsables chrétiens. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 17, que les pasteurs et les responsables d'église doivent veiller sur les âmes des membres de ceux qui appartiennent à la famille de leur église. Et puis, une raison très importante de faire partie de la famille de l'église, c'est que cela me rend responsable envers les autres et m'aide à grandir. Savez-vous que dans la Bible, l'expression « les uns les autres » est utilisée plus de 50 fois? La Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres, nous supporter les uns les autres, nous saluer les uns les autres, nous encourager les uns les autres, nous soutenir les uns les autres, nous devons nous conseiller les uns les autres, et ainsi de suite, prier les uns pour les autres. Cette expression « les uns les autres » est utilisée plus de 50 fois. C'est le ministère réciproque de croyant à croyant. Nous devons nous soutenir les uns les autres, et au travers de la responsabilité que nous avons de faire partie d'une église, nous grandissons dans la foi. Voilà de nombreux avantages, et nous devons les partager avec les gens qui ne sont pas encore membres. Il se peut qu'ils soient déjà venus chrétiens, mais ils ne font pas encore partie de l'Église. Nous devons partager ces avantages avec eux. Une troisième chose que vous devez faire pour faire passer les gens des simples spectateurs dans l'Église à des membres, pour qu'ils s'engagent à faire partie du corps de Christ, c'est de concevoir un plan. Concevoir un plan pour accueillir les gens dans la famille de votre église. Mais chaque église est unique, tout comme l'empreinte de mon pouce est unique. Personne d'autre ne possède l'empreinte de mon pouce. Chaque église a sa propre empreinte unique. Elles ont leur propre histoire. Votre église possède une culture unique, un taux de croissance unique. Et donc, à cause de cela, votre plan pour accueillir les nouveaux membres va être différent pour votre église que pour d'autres églises. Et vous devez vous poser des questions pour vous aider à décider quelle stratégie vous allez utiliser. Je vais vous donner un exemple de question. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 20, verset 18, « Les projets s'affermissent par le conseil. » Et voici le conseil que je vais vous donner, les questions qu'il faut se poser sur la participation des membres de l'Église. En tant que responsable d'Église, vous devez vous demander ce que Dieu attend des membres de son Église. Vous pouvez alors étudier le Nouveau Testament ensemble et répondre à cette question et faire une liste de choses qui semblent définir ce que Dieu attend de ses membres, ce que cela veut dire de faire partie de la famille de Dieu. Qu'attendons-nous des gens dans notre Église actuellement? Vous devez vous demander quelle sorte de personnes forment notre Église actuellement et quels sont leurs besoins, quels sont leurs intérêts. Comment pouvons-nous les aider à se sentir plus entourés dans la famille de l'Église? Vous devez aussi vous demander comment peut-on s'assurer que nos membres soient aimés et entourés, que leurs besoins soient satisfaits. Quels sont les services que nous pouvons offrir à nos membres? Comment pouvons-nous mettre en valeur tout ce que nous offrons déjà aux personnes de notre Église? Si vous vous permettez d'être créatif et en demandant au Saint-Esprit de vous aider, il va vous aider. Et vous trouverez de nouvelles idées pour aider les membres de votre Église. Je connais des églises qui offrent toutes sortes de services pour les membres de leur église, de cours bibliques pour les enfants, préparer des repas pour les malades, donner des habits aux pauvres, et d'autres façons. Il y en a beaucoup. Dans ma propre église, nous possédons plus de 150 ministères différents, des façons de pourvoir aux besoins des membres de la famille de notre église. Donc, posez-vous ces questions et décidez quelle est la meilleure stratégie pour que les gens se sentent impliqués. Vous devez aussi vous rendre compte que lorsque les gens viennent dans votre église, après être devenus chrétiens, ils ont beaucoup de questions à poser. Le fait qu'ils ont accepté Christ ne veut pas dire qu'ils vont automatiquement faire partie de la famille de Dieu dans votre propre assemblée des fidèles. Ils vont se poser au moins 5 questions avant de décider de faire partie de votre famille. La première question qu'un membre ou une personne se pose avant de devenir membre de votre église. Si elle vient à votre église et elle se demande « Est-ce que je dois faire de cette église mon église ? Faire de cette église mon domicile ?» La première question qu'elle se pose c'est « Suis-je à l'aise ici ?» C'est une question d'acceptation. Suis-je à l'aise ici? La meilleure chose à faire dans votre église pour vous assurer que les gens soient à l'aise, c'est de commencer des petits groupes. Nous allons en parler davantage au cours des sessions à venir. Vous devez commencer des petits groupes pour que les besoins des gens puissent être satisfaits, pour que l'on puisse prier avec eux. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les gens dans la famille de votre église pour ressentir que vous en faites partie. Mais vous devez connaître quelqu'un. Vous devez connaître 5 ou 6 ou 10 personnes. Et vous dire que ces personnes vont être ma famille dans l'église. C'est de cette façon chacun trouve un endroit où il se sent inclus. La deuxième question qu'il se pose, c'est « Est-ce qu'on veut me connaître ici ? » Est-ce qu'on veut me connaître ? C'est une question d'amitié. Les gens ne recherchent pas seulement une église chaleureuse. Ils recherchent des amis. Ils veulent des gens qui s'intéressent à eux. Et donc, vous devez créer des opportunités pour que les gens puissent développer des relations à l'intérieur de votre église. Ça n'arrive pas par hasard. Planifier des événements, planifier des activités où les gens peuvent apprendre à se connaître. Vous pouvez aussi prévoir que les gens inscrivent leur nom sur une étiquette pour qu'ils apprennent à connaître leur nom. La troisième question, c'est « A-t-on besoin de moi ?» C'est une question de valeur. Les gens veulent faire partie d'une église quand ils savent qu'ils peuvent contribuer à quelque chose. « A-t-on besoin de moi ?» Ils veulent ressentir qu'ils sont importants. Et donc, vous devez leur montrer que votre église a besoin d'eux, et que vous pouvez les utiliser dans un ministère, dans le corps de Christ, que nous sommes tous importants et utiles. La quatrième question, c'est, quel est l'avantage de faire partie de la famille de cette église? C'est une question d'intérêt, et vous devez expliquer les raisons bibliques dont nous venons de parler, au sujet de faire partie de la famille de l'église, les raisons pratiques et personnelles. Et puis, bien sûr, la cinquième chose que n'importe qui veut savoir avant de faire partie de la famille de l'Église, c'est « Qu'est-ce qu'on attend de moi ?» Si je deviens membre de cette Église, ça c'est une question concernant nos attentes. Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Les gens ont le droit de savoir ce que vous attendez d'eux lorsqu'ils deviennent membres de votre Église. Maintenant, la quatrième chose que vous devez faire lorsque vous intégrez les gens dans la famille de votre Église, c'est de créer un cours pour les nouveaux membres. Et dans ce cours, vous allez tout expliquer au sujet de votre église, accueillir les gens chaleureusement et aider-les à trouver une place. Beaucoup d'études ont démontré que la manière dont les gens sont intégrés dans la famille de l'église influence considérablement leur efficacité en tant que chrétiens dans les années à venir. Et la manière dont ils deviennent membres de votre église va déterminer leur efficacité en tant que membres dans la famille de votre église. Je crois que le cours le plus important dans toute l'église, c'est celui qui est conçu pour les gens qui envisagent de faire partie de la famille de votre Église et devenir membre. Un cours bien construit produira une Église solide. Et je crois que le pasteur doit, du moins en partie, enseigner ce cours. Il peut partager son temps avec d'autres responsables, mais le pasteur doit enseigner au moins une bonne partie afin qu'il puisse connaître votre vision, votre cœur, votre amour pour les gens et savoir comment et combien vous allez les aider, ce que vous attendez d'eux et ce qu'ils attendent de vous. Lorsque vous donnez ce cours, vous devez expliquer certaines choses telles que ce qu'est l'Église. Et vous pouvez expliquer que l'Église est une famille, l'Église est un troupeau, c'est une communion fraternelle, l'Église est le corps du Christ. Et il y a d'importantes vérités à découvrir concernant chacun de ces symboles dans la Bible. Vous pouvez expliquer les 5 objectifs de l'Église, la louange, l'évangélisation et la formation des disciples, le ministère et la communion fraternelle. Et expliquer que Dieu désire que nous ayons ces 5 objectifs, non seulement comme objectif dans notre Église, mais aussi comme objectif dans notre vie. Et puis, bien sûr, vous devez expliquer ce que vous attendez des gens qui font partie de la famille de l'Église. Et quelles sont les responsabilités de faire partie de la famille de l'Église. Partagez votre vision de l'Église, et expliquez que vous voulez la voir grandir et que vous voulez qu'elle touche les gens de votre quartier, de votre village ou de votre ville. Et ensuite, vous devez expliquer comment les gens peuvent être impliqués, comment ils peuvent participer à un ministère dans l'Église, et ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils sont devenus membres. Nous avons un cours dans notre Église que j'enseigne chaque mois. Je l'enseigne le dimanche après-midi, de 3 heures de l'après-midi à plus ou moins 7h30. Le cours dure 4h30 et nous offrons un repas gratuit que nous servons au milieu du cours. Et dans ce cours, pour devenir membre, cours 101, c'est comme ça que l'on l'appelle chez nous, nous expliquons aux gens tout ce que je viens de vous mentionner. La cinquième chose que vous devez faire, c'est établir un contrat d'adhésion. Qu'est-ce qu'un contrat d'adhésion? Ce contrat est un accord passé entre tous les membres de l'Église concernant leur engagement, s'engager envers Dieu et s'engager envers les autres. Il y a une raison biblique pour passer cet accord d'engagement entre tous les membres de votre Église. Dans 2 Corinthiens 8, verset 5, Paul mentionne deux sortes d'engagements différents. Il dit « Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis par la volonté de Dieu, ils se sont donnés à nous. » Remarquez les deux sortes d'engagements. D'abord, vous vous engagez envers Christ, c'est devenir chrétien. Et puis, vous vous engagez envers d'autres chrétiens pour faire partie de la famille de l'Église locale. Et c'est ça, la communion fraternelle. À l'Église de Saddleback, là où je suis pasteur, il y a 4 conditions pour devenir membre. D'abord, vous devez avoir donné votre vie à Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur, et pris cette décision publiquement. Deuxièmement, vous devez être baptisé. C'est l'expression de votre engagement à Jésus-Christ. Jésus a dit, a commandé à l'Église, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Et ensuite, il les dit, « Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, nous faisons ce que le Saint-Esprit, Jésus, nous a commandé dans la plus grande des missions. Troisièmement, vous devez assister à ce cours. Et comme je vous l'ai dit, c'est un cours qui dure 4h30 et vous ne devez y assister qu'une seule fois. Et il est offert chaque mois. Donc, je l'enseigne 12 fois par an. Et puis, la quatrième condition, c'est de signer le contrat d'adhésion de notre Église. Qu'est-ce qu'un contrat d'adhésion? C'est un accord ou un engagement entre les gens qui dit « Voici ce que nous nous engageons à faire ensemble ». Je voudrais vous lire le contrat d'adhésion de mon Église que tous nos membres ont signé. Nous avons à peu près environ 8 ou 9 000 personnes qui ont signé cet accord dans notre Église au cours des années. Je vous le lis. « Ayant reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur, et étant baptisé, et étant en accord avec l'objectif, la stratégie et la structure de Saddleback, je me sens poussé par le Saint-Esprit à m'unir à la famille de l'Église de Saddleback. En faisant cela, je m'engage envers Dieu et envers les autres membres à accomplir les choses suivantes. Voici à quoi il s'engage. Premièrement, je protège l'unité de mon Église. En agissant avec amour à l'égard des autres membres, en rejetant les commérages et en obéissant aux responsables. Vous savez, ce qui détruit le plus les églises, c'est les commérages. Lorsque les gens parlent aux autres des problèmes, le commérage, c'est quand vous partagez des informations et vous ne faites ni partie du problème ni de la solution. La Bible appelle cela un péché. Et donc, nous insistons sur le fait que lorsque les gens font partie de la famille de l'Église, ils doivent promettre de ne pas faire de commérage, de ne pas parler au détriment des autres membres de la famille de l'Église. Ils doivent aimer les autres membres, être engagés à aimer. Deuxièmement, je m'engage à partager la responsabilité de mon Église, en priant pour sa croissance, en invitant ceux qui ne vont pas à l'Église et à y venir, et en accueillant chaleureusement ceux qui sont nouveaux dans la famille de l'Église. Et donc, ils partagent la responsabilité de l'Église. Le troisième engagement, c'est « Je me mets au service de mon Église. » En découvrant mes dons et mes talents, en étant formé au service par mes pasteurs, et en développant un cœur de serviteur. Ils prennent donc un engagement de servir. À Saddleback, nous disons que chaque membre doit servir. Et vous ne devenez pas membre, à moins de dire que vous vous engagez à servir dans un ministère de l'Église. Et quatrièmement, je soutiens le témoignage de mon Église. En assistant fidèlement au service, en vivant de manière à plaire à Dieu et en donnant régulièrement. Voilà le contrat d'adhésion que notre assemblée de fidèles a écrit. Je voudrais vous encourager à lire la Bible, à prier et à créer un contrat d'adhésion pour votre Église. Vous allez voir que lorsque vous demandez aux gens de prendre un engagement important, vous aurez davantage de réponses que si vous ne leur demandez rien du tout. Les gens veulent un défi. Les gens veulent contribuer à quelque chose qui a de l'importance. Ils veulent que leur vie ait un sens et ils veulent participer à quelque chose qui est important. Donc, dans votre Église, si vous créez un contrat d'adhésion que les gens signent, vous allez vous savoir tout de suite qui est membre de la famille de l'Église et qui ne l'est pas. Une autre chose importante à faire pour favoriser la communion fraternelle dans votre Église, c'est de créer des occasions pour construire des relations. Créer des occasions pour construire des relations. Comme je l'ai déjà dit, il n'est pas nécessaire de connaître tout le monde dans l'Église pour sentir que c'est votre famille, mais vous devez au moins connaître quelqu'un. Et je veux vous encourager à organiser des petits groupes, de prendre des repas ensemble, ça c'est biblique, ils prenaient des repas ensemble, la Bible dit, c'est dans la Bible, et de partager les uns avec les autres, de prendre soin les uns des autres, de s'amuser ensemble, de faire des jeux ensemble, organiser des événements et des activités où les gens sont amenés à mieux se connaître. La manière la plus rapide pour approfondir les relations dans votre Église, c'est d'emmener les gens dans un lieu retiré pour un jour ou deux, un camp ou une retraite où ils vont se retrouver ensemble à la montagne ou près de la mer ou dans un autre endroit retiré où vous allez passer 24 heures ou 48 heures ensemble et ils vont pouvoir construire des relations et être plus proches les uns des autres. Pourquoi je parle de cela ? Parce que la Bible dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et en tant que chrétiens, si nous construisons des relations solides, nous agissons comme une famille, nous nous encourageons comme une famille, nous nous soutenons les uns les autres comme une famille, et alors le monde va le remarquer. Dans mon Église, nous avons beaucoup de ministères qui aident les membres de notre famille. Un homme m'a dit, « Je suis menuisier. » Et puis il a continué, je propose de faire des réparations de menuiserie gratuitement pour n'importe qui dans l'église. Nous pouvons réparer des maisons ou d'autres bâtiments simplement pour aider la famille. Et un autre m'a approché et il voulait commencer un ministère et il m'a dit, nous allons aider à réparer les voitures. Nous allons aider ceux qui ont des automobiles. Et d'autres personnes sont venues me dire, nous voulons aider à garder les enfants lorsque les parents doivent faire des courses ou lorsque les parents sont à l'hôpital. Nous allons nous occuper des enfants. Et en faisant cela, en nous aidant les uns les autres, c'est un témoignage merveilleux pour le monde de l'amour et de l'engagement qui existe dans la famille de Dieu. Une septième chose que vous pouvez faire pour que les gens spectateurs dans l'Église deviennent des membres, c'est de commencer des petits groupes et de les avoir continuellement, qui se réunissent dans des maisons ou qui se réunissent en plein air. Ils peuvent se réunir dans des parcs, ils peuvent se réunir à la montagne, ils peuvent se réunir dans des bureaux, dans des différents endroits. Et le plus de petits groupes que vous commencez, le plus vos relations vont commencer à se développer. La Bible nous dit, dans Actes 5:42, il est dit, ils se réunissaient chaque jour, dans la cour du temple et de maison en maison. Écoutez bien, dans la Bible, ils se réunissaient chaque jour, dans la cour du temple et dans les maisons. Deux sortes de réunions dans la vraie église biblique. D'abord, ce que nous appelons la réunion dans le temple, c'est quand vous vous réunissez avec tout le corps du Christ. Vous faites probablement cela le dimanche dans votre église. Vous vous rassemblez et vous communiez ensemble avec tous les membres. Et c'est merveilleux. Mais il est aussi dit qu'ils se réunissaient chaque jour dans les maisons. Dans les maisons. Parce que dans les maisons, ils pouvaient recevoir une attention personnelle et s'aider mutuellement. Et enfin, la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est de montrer aux membres de votre Église qu'ils sont importants. Aidez-les à se sentir valorisés. Aidez-les à se sentir qu'ils font partie de la famille. Lorsque vous accueillez les gens dans votre Église, lorsque quelqu'un devient chrétien et qu'ils sont baptisés, si vous en avez la possibilité, écrivez un petit certificat et donnez-le leur pour qu'ils puissent le garder et qui dit que vous êtes maintenant membre de la famille de l'Église. Une des choses que nous faisons dans notre église, nous laissons quelqu'un prendre une photo, une photographie de chaque personne qui est baptisée. Et nous leur donnons un certificat qui dit « Tu as été baptisé aujourd'hui, voici la photo de ton baptême, tu es là avec ton pasteur. » Et nous leur donnons. Ensuite, nous préparons un banquet ou un repas en l'honneur des nouveaux membres. Et nous les accueillons en leur servant un repas et nous les invitons à se lever et à partager leur témoignage. Si vous faites ces choses-là, vous allez voir que les gens vont vouloir s'engager dans votre Église et qu'ils vont grandir en tant que chrétiens et qu'ils vont aussi inviter d'autres personnes à faire partie de la famille de l'Église.